France Inter.
Interception ce dimanche, ce sont des jours presque ordinaires. Presque ordinaires sur le marché de Lannion, dans les Côtes d'Armor, un jour de tractage avant les municipales, sauf que pour la première fois dans l'histoire de la ville, le RN a déposé une liste. Jour presque ordinaire en Corse, en classe, sauf que le cours est un cours anti-mafia, et ça aussi c'est une première.
Interception. Fabienne Sintès sur France Inter.
En Corse, on ne banalise pas la violence, mais on s'habitue. Vous l'entendrez cette phrase dans la bouche d'une femme née en Corse, authentiquement corse comme elle le dit, mais qui peut aussi compter les gens qu'elle a connus dans son enfance et qui aujourd'hui sont morts, de morts violentes. Elle dit qu'elle en connaît une vingtaine. Elle dit surtout combien c'est complexe de parler des mafias qui gangrènent son île, parce que ces gens, il y en a qu'on connaît depuis tout petit, il y en a qu'on aime bien. C'est pour ça que des cours anti-mafia sont désormais expérimentés depuis cette rentrée, inspirés du modèle italien, à partir de la classe de 4e. L'âge où on devient presque adulte, mais où on est le plus influençable, l'âge où on est tenté par l'argent facile, l'âge où la figure du bandit a quelque chose de romantique.
C'est pas bien en soi, mais quand cette personne est proche de nous, qu'elle peut nous aider à trouver du travail, imaginons demain je me dispute ou... Cette personne, elle peut nous aider à régler ce problème-là. En fait, la personne nous apporte du bien, elle nous apporte du mal aussi. Il faut juste peser le pour et le contre.
Le dernier règlement de compte retentissant, c'est celui d'Alain Orsoni, le 12 janvier, figure historique du nationalisme. Les cours, eux, commencent à peine, mais l'idée, c'est 5 heures de sensibilisation par an, réalisées par les professeurs habituels des collèges et des lycées, mais aussi par des acteurs du monde de la justice, de la police ou par des membres de collectifs anti-mafia, ceux-là même qui organisent désormais des manifestations. Il y a encore tant de mythes à déconstruire. Noémie Bonin l'a compris tout de suite, devant le lycée, avant le cours anti-mafia.
Nous sommes devant le lycée Fesch à Ajaccio. C'est un grand bâtiment ancien, dans les tons de jaune, assez joli. Il y a pas mal de jeunes devant qui discutent. Là, il y a un groupe de garçons. On va aller leur demander comment ils se sentent sur leur île.
Et on va être filmé.
Non, alors c'est pour la radio.
La radio.
Donc vous êtes en quelle classe, dites-vous un peu?
En première 6.
En première et seconde aussi.
Hein.
Ici, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas comme à Paris, par exemple. Si on est à Paris, on est moins libre et on est plus en danger. Alors qu'ici, on peut rester dehors.
Bah, parce qu'on est une famille ici.
C'est plus petit, on se connaît tous.
Il y a certains traits de mentalité qu'il y a ici qu'on ne retrouve pas ailleurs, comme la solidarité et l'entraide. Du coup, ça rajoute cette atmosphère plutôt cosy, on dira.
Et vous dites que vous êtes en sécurité?
Oui.
Et en même temps, il y a quand même régulièrement des assassinats.
Excusez-moi, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir.
Pourquoi?
Parce que non, on n'est pas en difficulté par rapport à ça.
Vous êtes d'accord quand même qu'en Corse, il y a beaucoup d'assassinats?
Oui, mais c'est...
C'est les termes de la mafia, ça.
Il n'y a pas de mafia, il n'y a rien. On n'est pas en Sicile, on est en Corse.
C'est la mafia, ça n'existe pas encore.
Oui. Parce qu'il y a eu des manifestations à Ajaccio, à Bastia, des manifestations anti-mafia. Vous n'en avez pas entendu parler de ça?
Il n'y a pas de mafia ici. Il faut arrêter de parler de la mafia, il n'y en a pas. Surtout ceux qui, on va dire, qui... Excusez-moi du terme, mais bon. Ceux qui font le truc anti-mafia, c'est des balances.
Et les cours, vous en avez entendu parler du coup des cours?
Ça va être mis en place en mars.
Ça n'a rien à voir,
on ne devrait pas prendre ça en cours. Moi personnellement, je ne compte pas y aller.
Non, moi non plus, j'irai pas. Et je vous le dis, j'irai pas.
Et je suis contre.
Pourquoi?
Parce que c'est des balances.
Parce que pour toi, on ne devrait rien dire? Qui c'est les balances, j'ai pas compris.
Ceux qui font le truc anti-mafia.
Moi je comprends pas, pourquoi ils nous font ça nous en Corse, ils le font pas à Marseille, à Paris.
Ils font pas des trucs anti-drogue à Marseille, voilà, je comprends pas ça aussi. Ils font des trucs que pour nous.
Ça marche, merci beaucoup.
Merci.
Et puis, bonne continuation.
Allez,
bon courage.
Allez,
au revoir.
Ciao.
Une jeune femme de 19 ans tuée par balle alors qu'elle conduisait une voiture, sans doute prise pour cible par erreur. Ça s'est passé samedi soir à Pontelleccia, commune du nord de la Corse.
France Inter, le 18 février 2025.
Une mort qui choque et qui vient s'ajouter à une longue liste. Il y a eu l'année dernière en Corse 18 homicides, 16 tentatives d'homicide, ce qui place l'île au premier rang national en la matière, selon le préfet qui évoque, je cite, un contexte de violence entretenu par des groupes liés à la criminalité organisée.
Allez, c'est l'heure, on va rentrer en classe pour assister au premier cours anti-mafia d'une classe de seconde.
Bien, chers élèves, bonjour.
Bon, je fais vite l'appel, allez. Sophia. Lina, plutôt. Elia.
Aujourd'hui, ce cours est mené par deux professeurs. Le fait de travailler en binôme sur cette question de la mafia est une consigne du rectorat. Il y a Nathalie Tramoni, professeure de lettres, et Sébastien Ottavi, qui enseigne, lui, l'histoire-géographie.
Mathéa. Voilà, c'est bon. J'ai mes deux absents. C'est bon, on peut débuter.
On n'est pas en histoire ici, on est vraiment dans une actualité qui est brûlante, qui est immédiate. Voilà pourquoi le texte que vous avez ici parle d'un événement qui est extrêmement récent, qui a eu lieu au tout début du mois de janvier. C'est un assassinat d'une... Est-ce que ça vous parle? Si vous lisez le titre que vous avez, vous avez sous les yeux, donc c'est un extrait du journal Le Monde. Hein, donc après l'assassinat d'Alain Orson et en Corse, des voix appellent à tordre le cou au mythe du code d'honneur des voyous. Est-ce que vous avez repéré dans le texte des éléments qui permettent de souligner la violence qui traverse la société corse? Une violence inhabituelle. Oui, pardon.
Le nombre qui augmente d'année en année.
Le nombre, effectivement. Hein, on a un nombre d'assassinats, c'était relevé dans la vidéo, et vous voyez que c'est relevé ici aussi, hein, un nombre qui est anormalement élevé. Vous avez peut-être vu dans la vidéo qu'il y a une comparaison à l'échelle européenne. Nous sommes la région la plus criminogène rapportée au nombre d'habitants. Nous sommes la région qui a le triste privilège d'avoir le plus grand nombre d'assassinats en Europe. La question 4. Dans l'article apparaissent les termes grand banditisme, pression mafieuse, mafia, puisqu'on parle de comité anti-mafia. Qu'est-ce que c'est? Vous avez entendu parler de ces phénomènes-là, finalement?
Peut-être des rivalités entre de grandes personnes, de grands bandits, par exemple.
Et c'est quoi un grand bandit, du coup?
Une personne qui est respectée, par exemple.
Mais qui serait respecté pour quoi?
Respecté pour son pouvoir.
Le pouvoir, par exemple, là, nous avons en face la collectivité de Corse, qui est le pouvoir régional. C'est le pouvoir politique, c'est des gens qui ont été élus. D'où vient le pouvoir des grands bandits?
Par exemple, dans l'armement, peut-être.
D'accord.
L'armement, dans l'argent, dans les moyens qu'ils ont.
C'est ceux qui inspirent la peur dû à leur acte de violence.
Oui, ils menacent, ils veulent encore plus d'argent, donc du coup ça devient un peu des figures, parce qu'ils font peur aux gens, etc.
D'accord. Je m'appelle Sébastien Ottavi, je suis prof d'histoire géo.
Vous avez l'impression que ces jeunes, ces adolescents sont au courant du phénomène mafieux en Corse?
Les réflexions qu'on entend parfois et les éléments de participation de ce matin donnent l'impression quand même qu'ils savent qu'il se passe quelque chose à ce niveau-là. Ils ont quand même compris qu'on n'était pas dans un fonctionnement tout à fait normal. C'est difficile d'ignorer, y compris dans notre lycée de centre-ville, et notamment du fait de l'actualité de ces dernières années et du lieu où un certain nombre d'assassinats se sont déroulés, à quelques centaines de mètres de notre établissement, et ça sur plusieurs années, c'est difficile de se dire que non, les élèves sont sur leur TikTok et pensent à autre chose. Ils vivent quand même ici. On ne peut pas ignorer ce qui se passe ici.
Est-ce que vous sentez que pour eux, c'est quand même un sujet particulièrement sensible?
Je pense que c'est un sujet sensible pour tout le monde. Les participations l'ont montré. On remarquait par exemple avec ma collègue qu'une jeune fille avait l'air particulièrement... qui n'a pas parlé, hein, avait l'air un petit peu fermée, un petit peu refermée sur elle-même... On sait pas, on est société de proximité quand même, donc on sait jamais où on met les pieds, on essaye d'être prudent, parce que voilà, pas une question de sécurité, mais notre but c'est pas de heurter les gens ou de réveiller des traumatismes, c'est aussi simple que cela, c'est quelque chose qui affleure, en tout cas chez un certain nombre.
Est-ce que dans ce contexte-là, vous vous prenez particulièrement des pincettes quand vous faites ce type de cours. En tant que professeur d'histoire-géographie, vous avez d'autres sujets parfois qui peuvent être sensibles, mais est-ce que là-dessus, vous pesez vraiment vos mots plus que dans d'autres cours ?
Très honnêtement, j'ai pas l'impression de pratiquer une quelconque auto-censure. Ce que je vais éviter, par exemple, c'est des articles de presse qui mentionneraient des instructions en cours, même quand les gens ont été mis en examen. Je sais pas qui est quoi, je connais pas toutes les généalogies. Mais à la limite, c'est la seule règle de prudence. Mais là encore, prudence par rapport au vécu des élèves, hein, pas un sentiment d'insécurité de ma part. C'est la seule règle de prudence que je m'imposerais.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans vos cours d'entendre des propos qui vous ont étonné, surpris ou choqué sur ces sujets-là ?
Dans mes cours, je ne crois pas. Ma vie a été photographiée dans une manifestation, dans une des manifestations anti-mafia. Et un de ses camarades que je connais, qui est très, très, très gentil au demeurant, a fait remarquer que quand même, la mafia, c'était quand même grâce à eux qu'on était en sécurité dans les rues et qu'on ne connaissait pas l'insécurité des banlieues, des fameuses banlieues du continent. Là, pour le coup, ça m'a surpris et quelque part, j'ai découvert un espèce de mythe dont je ne sais même pas s'il est volontaire, mais c'est cette idée que quelque part, le grand banditisme ponctuellement pratique ses sacrifices humains, mais que c'est à eux qu'on devrait le fait de ne pas se faire tirer les sacs dans les rues. C'est pas choquant, mais c'est édifiant. La société corse, d'après ce qu'on a vu, elle a narré le bol. Vous, comment vous vous situez par rapport à ça? Parce que quand même, on a entendu sortir des éléments de vocabulaire qui montrent que même si vous ne savez pas forcément noter, c'est une réalité que vous connaissez. La drogue, le pouvoir, le respect, la peur, les armes. Oui.
C'est pas bien en soi, mais quand cette personne est proche de nous, qu'elle peut nous aider à trouver du travail, imaginons demain je me dispute ou il se passe des trucs beaucoup plus graves avec quelqu'un que je connais, même si ça ne nous regarde que nous, cette personne, elle peut nous aider à régler ce problème-là. Ça apporte du bien. En fait, la personne nous apporte du bien, elle nous apporte du mal aussi. Donc, il faut juste peser le pour et le contre. Surtout que nous, en tant que jeunes, on ne peut pas faire grand-chose. Bon, il y a trop de représailles. Il y a beaucoup trop de représailles.
Certains jeunes, c'est bien parce qu'ils essaient de lutter contre ça eux aussi. Tout le monde est... Enfin, même nous, jeunes, on est concernés par ça.
Je pense que la manifestation, c'est bien, mais que ça n'empêche pas la criminalité. Comme on a vu qu'il y avait la manifestation et ça n'a pas empêché l'assassinat d'Alain Orson.
Alors, c'est vrai, la manifestation, ça n'empêche pas. Pour le coup, est-ce que c'est inutile, finalement ? Oui.
Mais les manifestations, elles sont là pour sensibiliser les gens et pour montrer à la justice qu'on les soutient... Dans cela.
Et pour aussi un peu faire bouger la société, peut-être, même si là, ça ne marche pas forcément, mais peut-être que plus tard, ça finira par marcher et on ne sait pas.
Écoutez, je ne sais pas si j'ai une grande phrase de conclusion. L'idée, c'est de lancer ça, c'est de travailler sur notre actualité, sur comment elle s'ancre dans le passé, sur peut-être quel futur ça peut nous annoncer. Donc, je ne vais pas pontifier en deux phrases, à part pour vous remercier de votre participation. Peut-être que vous aurez d'autres de ces cours plus tard.
Vous attendez 2 minutes. On accourt après ici, d'accord ?
Quelle peut être l'efficacité de ces cours face à des réseaux qui sont très puissants et d'un point de vue des adolescents, l'attrait de l'argent facile, par exemple des petits trafics où on n'a pas besoin de faire grand-chose pour avoir beaucoup d'argent facilement?
Peut-être qu'à terme, ça ne servira à rien. On en est tout au début. Un enseignant vous dirait que les effets de son travail, parfois on passe toute une carrière sans forcément les ressentir, ou c'est au hasard de rencontres d'anciens élèves. Donc ça, c'est général. Là, on en est tout au début, et je n'ai aucune idée de ce qu'à terme, est-ce que c'est véritablement utile pour les jeunes. Je pense à tout le moins que commencer ça, c'est un peu comme les manifestations, c'est quand même un signe qu'on donne. C'est un signe que les institutions donnent, c'est un signe que la rue a donné aussi, c'est un signe que les collectifs ont donné. Peut-être que ça sera le dernier signe de la société corse, mais en attendant, on aura essayé, quoi. dans une société comme la nôtre qui prend les coups qu'elle prend à l'heure actuelle, on aurait tort de ne pas essayer.
Des jeunes qui n'ont pas forcément conscience de ce qu'est la mafia ou qui refusent de voir les choses en face, ou encore tout simplement qui ne sont pas à l'aise pour parler de ces sujets. On sent quand même une certaine gêne parmi ces ados. S'inquiètent forcément les parents. On a rendez-vous avec la maman d'une jeune fille de 14 ans. Elle est responsable d'un magasin dans le centre-ville de Bastia.
Alors, la robe, madame. 130 euros. Mmh. Au lieu de 195.
Ah oui, c'est bon.
Donc à l'occasion, venez essayer.
Voilà. Merci, madame.
Pardon. Je vous en prie. Bonne journée.
1 Corse, 1 Bastiaise, enfin 1 Bastiaise. Je travaille à Bastia, mais je suis originaire du Niolo, donc c'est une région du centre Corse. Voilà, donc je suis 1 Corse authentique. Je tiens énormément à mon territoire. Je n'y ai pas toujours vécu. J'ai vécu aussi sur le continent, et c'est pour ça que j'apprécie d'autant plus d'être revenue chez moi.
Et donc, vous êtes maman d'une adolescente?
D'une adolescente, en troisième, tout à fait.
Et vous avez entendu parler de ces cours anti-mafia qui se mettent en place au collège et au lycée ici en Corse, tout doucement?
Oui, effectivement, j'ai été mise au courant de ce dispositif que j'apprécie énormément parce que la mafia en Corse est une réalité. De simples discussions avec des amis qui ne sont pas corses. Personne n'a connu des gens qui se sont fait tuer dans leur vie, quoi. Alors qu'en Corse, quand on vit en Corse et qu'on a grandi en Corse, moi je suis née en 1979, des gens dans ma vie qui se sont fait tuer, que je connaissais personnellement, j'en connais 20. C'est pas trop normal, je pense. C'était des jeunes qui étaient bien partis dans la vie et qui se sont laissés tenter par cet argent facile. Et donc, qui ont mal fini, quoi. Je ne dirais pas qu'on banalise la violence, parce que je banaliserai jamais la mort d'un homme, mais on est habitué. On est habitué.
C'est quoi la présence des réseaux mafieux ?
Tous, on connaît des gens qui sont plus ou moins prêts dans le milieu. On en connaît tous. Il y en a même qu'on affectionne. Il y en a qu'on connaît depuis qu'on est né. Donc c'est hyper complexe parce qu'on n'a pas envie d'une société gangrénée. On a envie d'une Corse saine. On aurait envie d'une Corse, pour ma part, autonome. Et on ne peut pas baser une autonomie sur une économie aussi... controversé, quoi. C'est pas possible. On est toujours dans ce schéma de groupes mafieux qui ont été bien clairement identifiés dans toute l'île, qui recrutent des jeunes, de plus en plus jeunes, bien évidemment plutôt des garçons, mais moi, en tant que mère d'une fille, ma peur serait que ma fille fréquente ce genre de personnes. Je n'ai pas envie. J'ai juste peur qu'elle tombe amoureuse des mauvaises personnes, parce qu'un adolescent amoureux, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui peut le raisonner, quoi. Donc,
votre fille, elle aime bien les cadeaux, c'est normal, c'est une ado.
Oui,
c'est,
mais les ados...
C'est partie des choses de son âge, ça peut être une porte d'entrée pour vous.
La jeunesse corse a une énorme... un énorme appétit pour les produits de luxe, mais de grand luxe. Ça met une forme de pression, cette société de consommation de luxe. En tout cas, moi, en tant que mère, je me sens la responsabilité de la prévenir contre ça, quoi. Voilà. Il y a des exemples très tristes. Il y a bientôt 1 an, une jeune fille s'est fait tuer, quoi. Parce que, voilà, c'était une erreur. Elle n'avait rien à voir avec tout ça, quoi.
Et ça vous a marqué?
Ça a marqué même les adolescents. Ma fille, elle a été choquée par ça.
Come una storia che mi dà sognarci, una faccia singolare. Come sul fuoco avvia bruciato i sogni, la testa è bella morta. Quando Asperenz mi ha fatto ammazza tutti, calmati zio, piglia tutte le ricchezze di amor, isola. Allora ti ferà di un male. Ma chi mi faci quello? Ma chi mi faci su bandito? Subito, dubito, schibi di popi di corpo in spaghetti, boom! E non c'è più un che si rivela. Non so in due so, ma un cerco mica Dio, agio l'inferno in me. Dimmi la ragione, dimmi la speranza, poca cosa e basta. Una storia che mi pare oscura, pare scritta. Un odio mica paura di dirlo, manca più che di me. Di lasciare giù mica, scrivamo storia perché tengo a piuma. Mica do spalla, un simo frate, si vede non ta mo faccia.
Tu dis pas, si tu veux pas, tu peux. Si t'as pas envie, te sens pas forcé, bébé, hein. D'accord?
Est-ce que tu peux nous dire ton prénom?
Je suis obligée de te dire mon prénom ou pas?
T'es pas obligée. Tu as entendu ce dont on parlait avec ta mère. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de tout ça, de la peur des mauvaises fréquentations?
Après, je pense qu'on connaît tous ça en Corse. On en a tous déjà entendu parler, des mauvaises fréquentations, des gens qui peuvent mal tourner. Ou... Malgré tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tous ces gens qui se font tuer, c'est vraiment dommage parce qu'ils risquent leur vie pour n'importe quoi. On a essayé plusieurs fois de les raisonner, mais bon, ça marche pas, quoi. Ça marche pas, et...
Et c'est quoi? C'est des connaissances qui, du jour au lendemain, se sont mis à avoir un peu plus d'argent, se sont mis à acheter des choses plus chères?
Mais petit à petit, en fait, je pense que oui, ils ont commencé petit à petit à avoir des choses chères, à se rendre compte qu'en fait, ils pouvaient s'acheter ce qu'ils voulaient, que c'était facile, en fait, hein, de pouvoir se procurer autant d'argent aussi vite et aussi facilement. C'est toujours ce truc des marques, de montrer qu'on a, etc. Donc ça leur a plu et après, ils ne s'arrêtent plus, en fait. Enfin, c'est aussi ça, quand ils rentrent là-dedans, ils se sentent tout de suite valorisés. C'est vrai que cette image du voyou, c'est... Enfin, pour les garçons, en tout cas, moi, je trouve ça ridicule. Hein, mais pour les garçons, ils se sentaient poussés des ailes, je dirais. Alors qu'en fait, il n'y a rien du tout, quoi. C'est ridicule et puis c'est extrêmement dangereux.
Bah, écoute, merci beaucoup.
De rien.
Voilà, j'ai dit mon nom ou pas? Moi, je sais plus. Non, bah écoutez, de toute façon, moi j'assume hein, mes idées. Hein. Même si j'ai le voyou que je connais très bien en face de moi, hein, je dirais.
Mille merci de nous avoir accueillis.
Avec plaisir, désolée, je n'ai rien offert, on s'est même pas bu un café, un coup, rien du tout là. Hein.
Et bah, bon courage. Merci, ouais.
Un
merci.
Gros bisou à Josette, vous allez la voir là.
On y va.
Allez,
on y va.
Un bisou.
Ça marche. À bientôt.
Allez alors, à bientôt. Au revoir. Merci à vous.
Alors Josette, c'est Josette Dalava Santucci, médecin. Elle fait partie de l'un des deux collectifs anti-mafia de Lille. Il s'appelle Mafiano Vitaye. Mafia non, la vie oui. Elle accompagne les victimes de ces réseaux criminels et milite depuis des années pour ses cours anti-mafia dans les établissements scolaires de Corse.
Appel en cours. En communication.
Oui, oui.
Porte
oui,
ouverte.
Je vous fais monter.
Porte ouverte.
C'est quel étage?
Porte ouverte.
Non.
Appel en cours. En communication.
C'est bon.
Porte ouverte.
Ah, et voilà.
Bonjour.
C'est toujours l'incertitude. On ne sait jamais si ça va monter vite ou plein. Entrez. Parce que...
Merci de me recevoir. Enchantée. Voilà.
Une très belle vue sur la mer de votre balcon.
Ah oui, là, alors on a à 180 degrés, disons, et les îles surtout. Donc là, vous voyez l'île d'Elbe. Ensuite, vous voyez l'île de Monte-Cristo, la fameuse. Et là-bas, c'est l'île de Capraille qui appartient à l'Italie. Donc voilà.
Vous êtes bien entourée.
Voilà, très bien entourée. Voilà.
Et là, vous étiez en train de faire le décompte
oui.
De tous les meurtres liés...
Voilà. Alors, tu regardais un petit peu les morts violentes depuis les 18 dernières années.
Qu'est-ce que vous appelez morts violentes, en fait?
Ah ben, c'est tous les assassinats dont on sait que ce sont des
comment dire, de comptes.
Oui, ce qu'on appelle les règlements de compte. Mais tout le monde sait un peu ce qu'il y a en dessous. On sait qui est qui.
Et donc hein? Là, par exemple, en 2025...
Ah ben, en 2025, on en a 12. Donc, ça correspond à la moyenne,
2024.
Je dirais. 2024, 10. Enfin, vous voyez, c'est variable. Enfin, les journalistes n'ont pas tout. La justice ne donne pas toujours les mêmes chiffres. Enfin, bon, c'est de l'ordre de grandeur.
Pourquoi aborder ce sujet, c'est difficile dans les établissements scolaires aujourd'hui ?
Oui, c'est très difficile, mais les gens, ils ont eu ces problèmes-là aussi en Italie. On sait que c'est une société de proximité, donc il faut laisser les enfants parler.
Et, donc ça veut dire que des victimes et des enfants de...
Ben, voilà, voilà, les victimes mafieux, on va dire, et voilà, vont se trouver ensemble. C'est inhérent à cette proximité.
C'est pour expliquer un peu la sensibilité du sujet, c'est-à-dire que pour les enseignants, pour les intervenants,
c'est
un sujet difficile à aborder.
Mais oui, c'est un sujet difficile, il faut absolument, mais ils en ont conscience. C'est la première chose qu'on leur a appris en Italie, attention, et ici c'est encore plus prégnant, parce que si vous prenez Palerme, il y a je ne sais combien de lycées, c'est énorme Palerme. Ici, c'est très petit, il faut faire très attention, être complètement neutre, et laisser les enfants parler, parce que c'est ça l'important, c'est que les enfants parlent, qu'ensuite ils parlent à leurs parents pour que les parents comprennent ce qui se passe, parce qu'il y a les réseaux sociaux en plus. Dans les réseaux sociaux, les voyous sont valorisés. Donc, méfiez-vous, moi je disais toujours à mes enfants et mes petits-enfants, méfiez-vous de l'argent. Si vous avez des copains qui vous voyez, vous invitent dans des villas à n'en plus finir, c'est pas la peine d'y aller, hein, parce que ici, il n'y a pas des fortunes autres que celles qui sont pas très claires, quoi.
Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu dérisoire de se dire, on va pendant quelques heures chaque année parler aux jeunes de ces enjeux-là, sachant que en face, tous les jours, ils peuvent être confrontés à de l'argent facile, par exemple. Ça, c'est difficile pour un ado.
C'est vrai que c'est difficile de résister. Moi, j'ai vu des parents vraiment surveiller leurs enfants, enfin surtout parce qu'ils savaient qu'autour, il y avait des prédateurs. Hein. C'est plus facile quand on peut parler, quand on peut comprendre que c'est pas toi toute seule à qui ta mère impose cette espèce de surveillance qui paraît abusive. Ça peut aussi aider les parents à se sentir moins seuls. Je crois que ça, c'est important.
Josette, vous n'avez pas donné votre âge ?
Ah.
Je ne sais pas si vous nous le donnez.
Oui, si, je vais le donner, parce que j'ai un âge très canonique. J'ai 83 ans et bientôt 84.
Et vous êtes pleine d'énergie, vous avez une vocation incroyable.
J'ai une vocation de durabilité. Ben, c'est l'avenir de mes petits-enfants, là où ils vont grandir, là où ils vont... Ça, c'est très important de mes petits-enfants et de tous les petits-enfants de la Corse. Et je pense que s'ils peuvent vivre ici, tant mieux. Mais j'ai l'impression qu'au jour d'aujourd'hui, je ne leur dirai pas de rentrer. Voilà.
De rentrer ?
De rentrer en Corse après leurs études, par exemple. Mais bon, je module, hein. Je pense que l'attachement à la terre, c'est très important. S'ils peuvent travailler sur la terre de nos ancêtres, moi, c'est mon rêve aussi, hein. Mais moi, je pense que y en a qui ne rentreront pas, qui les meilleurs risquent de partir, même s'ils ne trouvent pas le socle de société qu'ils méritent.
Et donc, vous travaillez pour que tous les enfants et les adolescents puissent grandir dans une...
Et ça peut se faire, puisque ça s'est fait en Italie. Je ne dis pas qu'on va tout guérir, le corps social. Mais moi, quand j'ai fait mes études, le cancer, c'était mortel à 100%. Aujourd'hui, on guérit 50% des cancers. Donc, moi, je donne la métaphore du cancer, parce qu'aujourd'hui, on a un cancer généralisé avec des métastases partout. Donc, il faut comprendre ces métastases, comment elles prennent sur les points faibles, et le fait de connaître, déjà... Ça vous donne les moyens de lutter. Hein. Il faut comprendre pourquoi on vous dit de vous taire, par exemple. C'est ça, l'important. Et donc, je crois qu'il faut que les gens soient informés sur les mécanismes, sur le système. C'est plus une pieuvre, c'est vraiment un cancer. Là, elle va là où il n'y a pas d'anticorps. Et si vous avez vos propres anticorps, ils ne vont pas venir chez vous.
En Corse, dire non à la mafia, ça prend en cours. Un reportage de Noémie Bonin avec Lucien Lefebvre.
France Inter, Interception.
Quoi de plus banal qu'une matinée de tractage à l'heure du marché dans n'importe quelle ville de France ? À deux week-ends des élections municipales, c'est à Lannion que nous allons, dans les Côtes d'Armor. Bastion socialiste, historiquement, ville plutôt prospère aussi, où le taux de chômage est à 6,3%, inférieure à la moyenne nationale. Mais désormais, fort de chiffres qui grimpent de manière exponentielle, le RN brigue la ville. C'est la première fois qu'il parvient à constituer une liste. En réalité, il en a tenté 6 dans le département. La seule qu'il a pu monter est à Lannion. Avec quels arguments ? C'est donc sur le marché que Vanessa Descoureau a d'abord cherché la réponse.
ces jours de marché à Lannion, et comme tous les marchés de France, à 15 jours du premier tour des municipales, eh bien ça tracte à tous les coins de la place principale sur laquelle se tient ce marché.
Messieurs, dames, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que je peux remettre un petit tract pour les élections municipales ?
Ah, Dunkerque.
Ah, Dunkerque quoi ?
Une belle région,
ouais,
ça.
Merci. Oui, merci.
Est-ce que je peux remettre un tract pour les...
Pas le temps.
Bonjour monsieur, pour les municipales à Lannion.
Ah non, merci.
Passez une bonne journée.
Extrême gauche et extrême droite.
Passez une bonne journée, au revoir.
Donnez leurs idées, on sait ce qu'ils défendent. Parti qui vote contre l'augmentation du SMIC.
Là, on a mis notre micro sous le nez de militants du Rassemblement National qui sont en train de tracter.
Contre la déction des salaires sur la
façon. Madame. Passez une bonne journée, au revoir.
Vous détruisez les acquis sociaux.
Et il y a des militants antifascistes qui sont autour d'eux et qui commentent.
Parti le plus condamné de France, n'oublions pas.
C'est une ambiance assez particulière.
C'est seulement le parti des voyous. Hein.
Pour l'instant, pas beaucoup d'enthousiasme autour de ce tract de l'extrême droite.
Et voici. Merci monsieur, très bonne journée à vous. Madame, bonjour.
Et oui. Je fais un sujet sur les municipales. Vous vivez à Lannion tout d'abord ? Quels sont pour vous les chantiers prioritaires du futur maire ?
Alors je dirais le vivre ensemble, c'est un peu bateau, mais dès qu'on n'est pas d'accord, on hurle, plutôt que d'écouter éventuellement l'avis de l'autre. Mais voilà, c'est quand même la concorde, c'est quand même, ça marche mieux que la guerre civile, quoi. Enfin, alors je pense ça. Après, parce que écologiquement, ça marche plutôt pas mal. La circulation, c'est pas terrible. Il y a eu des choix qui n'ont pas été faits de manière judicieuse pour ce que le commerce en ville puisse ne pas s'étioler. Parce que là, manifestement, les commerçants ont du mal quand on ne peut pas se garer, qu'il y a des gens qui arrivent de loin.
Mais globalement, la ville est quand même, à mon avis, bien gérée. Parce que c'est vrai que c'est un endroit où on est très bien pour vivre. Alors, on peut dire que les impôts locaux sont un petit peu chers, mais c'est lié au fait qu'il y a beaucoup de services. On a piscine, médiathèque, ludothèque, théâtre...
20 000 habitants.
Oui, cinéma, enfin, etc., etc. Non, non, c'est vraiment... Il y a plusieurs théâtres dans les environs.
Il y a une particularité sur ce scrutin ici à Lannion. Pour la première fois de l'histoire de la ville, il y a une liste RN.
Je comprends pas, il n'y a pas d'insécurité. Alors, c'est assez rigolo parce que les gens nous disent « Ah oui, non, mais moi, je n'irai pas me promener le soir toute seule dans la rue, j'ai peur, etc. » Je lui dis « Enfin, écoute, il n'y a absolument aucun danger. »
Un petit bémol apporté par votre mari, si j'en juge sa moue.
Bah, oui, parce qu'il n'y a pas que l'insécurité qui fait que des gens peuvent voter pour le Front National. Bon, là, avec l'affaire Epstein, le tout pourri, il est encore maximisé. Donc, mais l'air du temps, avec Trump qui vient d'arriver, cette espèce de culbuto sur les règles démocratiques, sur le droit international qui est foutu par terre. C'est une ère du temps qui fait qu'on peut très bien voter pour le Front National, pas spécialement parce qu'il y a plein d'immigrés en ville ou parce qu'on a peur dès qu'on marche dans la rue. C'est sans doute pas cette raison-là qui fait qu'il y a une liste, moi ça m'étonne, je ne le savais pas, qu'il y a une liste RN. Et puis, moi j'ai connu des gens qui étaient RN, qui n'étaient pas des salauds, c'est trop facile. Et d'ailleurs, dans la vie politique française, c'est un gros problème de stigmatiser l'autre, et de ne pas chercher à savoir ce qu'il y a dans la tête, mais simplement de s'arrêter à la façade.
Est-ce que vous pensez aussi que le drame de Lyon et la mort de ce militant, ce jeune militant d'extrême droite, peut aussi changer la donne ?
Je ne suis pas demain, je ne saurais pas vous dire si ça va avoir un effet sur les élections municipales de Lannion. Hein. Après, dans des plus grandes villes, à mon avis, ça ne va pas être la même chose. Mais sur Lannion, je ne suis pas sûre.
En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre disponibilité.
Merci, bon, ça nous fait plaisir hein, de temps en temps qu'on nous demande notre avis.
Je suis là pour ça.
Madame,
bonjour. Bonjour, deux escaliers.
C'est une jeune femme de 18 ans qui mène cette liste du Rassemblement National à Lannion. Elle s'appelle Blanche Le Goffic et son credo, c'est la sécurité, même si les données des forces de l'ordre disent que le Trégor est l'un des territoires les plus sûrs du pays. Il y a ici quatre autres listes, deux d'extrême gauche, une autre issue de l'équipe sortante, une équipe socialiste, et la dernière qui se présente comme liste citoyenne dans le sens où elle n'a reçu aucune investiture, mais dont certains colistiers donnent une couleur locale plutôt à droite.
Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être à l'heure.
Nous sommes un soir de semaine après le travail. soirée pluvieuse par ailleurs, et nous allons assister à une conférence débat autour de l'hôpital public de Lannion, hôpital dont les activités se réduisent peu à peu, et c'est le sujet numéro un des municipales ici.
Alors, en termes de bilan, puisqu'on est le 11 février 2026, on va commencer par ce qui est positif. Ce qui est positif, c'est qu'en juin 2025, le projet de fusion avec le privé, avec la polyclinique, a été abandonné. Ça, c'est une vraie bonne nouvelle pour la population. Depuis mars 2024, on se bagarrait pour une réouverture.
Alors, moi, c'est Anne Loirer. Donc, je suis coprésidente du comité de défense de l'hôpital Lannion-Trestel. J'ai exercé mon activité professionnelle à Paris, mais je suis originaire de Lannion. J'ai prolongé un peu ce que j'avais fait quand j'étais active. Je me suis préoccupée de l'hôpital public.
Je suis Martine Bondon, secrétaire du comité de défense.
Alors, par les temps qui courent, j'imagine que tous les candidats vous tournent autour, parce que la défense de l'hôpital public doit être un enjeu localement très important.
Oui, ça devient un sujet majeur, parce que depuis mars 2024, les urgences de l'hôpital ont été fermées la nuit. Donc il y a eu ce qu'on a appelé un peu partout sur le territoire, la régulation des urgences. En sachant que la particularité, c'est qu'on est très loin des autres sites d'urgence permettant d'accueillir les besoins de la population entre 19h et 8h le matin quand même.
Très loin, c'est combien de kilomètres à peu près ?
Alors notre GH, notre groupe hospitalier Armor, c'est Saint-Brieuc, c'est à 80 km. On a un autre site d'urgence qui est à Guingamp, qui est à 40 km. Et on a vu, dès que notre hôpital a été régulé, très rapidement, Guingamp s'est trouvé saturé. On a gagné, au fil des mois, une réouverture partielle. Et depuis début janvier 2026, à nouveau, les urgences sont réouvertes 24 heures sur 24, mais dans une situation bien fragile. On nous l'a assuré pour 3 mois. On espère que ça va durer. On ne l'a pas assuré plus loin que le 31 mars 2026.
Je me retourne vers vous, Martine. Il y a des solutions qui sont déjà sur la table.
Tous les candidats ont dans leur programme l'ouverture d'un centre de santé avec des médecins salariés.
Par la mairie.
Quand on dit tous les candidats, les 4 autres listes disaient on porte l'idée et la proposition de la création d'un centre de santé. La liste du Rassemblement national a dit « nous, on porte l'idée d'une maison médicale ». Elle a bien fait les différences entre un centre de santé public, municipal, avec des médecins et des professionnels salariés, avec l'accès, avec une prise en charge du tiers payant. Elle a simplement dit « moi, je veux, pourquoi pas, la création d'une maison médicale ». Elle n'a pas du tout porté l'idée d'un centre de santé. Dans le parcours quotidien, après, quand on n'a plus d'accès à des soins de premier recours, quoi, et qu'on a besoin de soins spécifiques, ce n'est pas Doctolib qui va nous sauver, ce n'est pas la téléconsultation. Donc, il y a une perte de chance. Et c'est pour ça que notre mobilisation pour défendre l'hôpital, elle est importante. Et comme notre mobilisation dans le cadre de la campagne municipale, faire en sorte que l'idée de la création d'un centre de santé devienne incontournable. Parce qu'avant, on disait la médecine à 2 vitesses, celui qui peut payer ou celui qui ne peut pas payer. Maintenant, elle est vraiment à 3 vitesses parce qu'il y a aussi celui qui n'a pas du tout d'accès.
La solution, elle est ici, au sein du comité de défense. La solution, elle est entre les mains des gens. C'est la mobilisation des gens qui font bouger les choses.
Je suis à 100% d'accord. Si on est là physiquement ce soir, c'est parce qu'on a envie que ça bouge.
Est-ce que pour vous, la défense d'un service public de la santé, c'est l'enjeu numéro un des municipales ?
C'est extrêmement important. Il n'y a pas très longtemps, j'ai été amenée à transporter ma fille aux urgences à Morlaix, justement, en pleine nuit, parce qu'à Lannion, les urgences étaient régulées. Ce que je dis, c'est que ça implique, ça provoque un climat d'insécurité, d'angoisse et d'anxiété dans la population.
Et pour vous, les candidats qui sont sur les différentes listes s'emparent assez de ce sujet-là ?
Non, pas suffisamment. Mais même, je veux dire franchement, même au niveau national, je trouve que c'est pas la hauteur. Pas du tout. Et que ça aussi, c'est inquiétant.
Merci à toutes et à tous. Et puis au prochain rendez-vous, que ce soit...
Michel, merci beaucoup. Bonne soirée, bon retour chez vous.
À l'espace Sainte-Anne.
Pour comprendre ce qui a changé localement, on va sortir un tout petit peu de Lannion et s'arrêter à Calac. C'est à 45 km d'ici. En 2022, la municipalité avait pour projet d'ouvrir un centre d'accueil de réfugiés. L'extrême droite locale, mais pas seulement, parce que des militants sont venus d'un peu partout. L'extrême droite était vent debout et après des mois et des mois de procédures, de harcèlement, d'intimidation, les élus de Calac ont renoncé à leur projet. Cette affaire a laissé des traces, incontestablement, et a permis de décomplexer l'extrême droite locale.
Ici, vous ne voulez pas que vienne s'installer par le décret du maire et d'intérêt que nous ne connaissons pas des migrants. Vous êtes des patriotes. Merci pour le pays.
Il n'y a pas d'usine, il n'y a rien qu'on les nomme dans des grandes villes. Ils sont bien à Paris, mais pas ici.
Nous sommes également très inquiets à cause de l'arrivée de l'islam.
Le combat de Calac est un combat absolument symbolique. Est-ce qu'on veut que notre pays disparaisse ou est-ce qu'on veut que la France reste la France ?
On va entrer dans les locaux du journal local, le POER. Presque à l'heure. Bonjour.
Là, c'est Martin et Maël. On est trois journalistes. Trois journalistes et demi, parce qu'il y a Soazic qui vient en secrétariat de rédaction le mardi.
Et vous paraissez à quelle fréquence ?
Bah, c'est un hebdo, donc toutes les semaines, tous les mercredis.
Je vous suis.
Erwan Chartier, je suis journaliste et rédacteur en chef de l'hebdo Le Poer, qui couvre le centre-Bretagne sur trois départements.
Est-ce que l'affaire Calac a laissé tant de traces que ça pourrait expliquer la présence d'une liste RN dans la région, en l'occurrence à Lannion ?
Oui et non, parce qu'à Calac, c'était plutôt reconquête. Et les deux formations ne s'apprécient pas forcément, c'est un euphémisme. Par contre, le RN nous avait dit qu'ils allaient capitaliser par rapport aux excès des gens de reconquête. Et voilà, et paraître plus présentable après ce qui s'était passé à Calac, dont des menaces, ben nous on en a subi, mais les élus surtout, qui ont renoncé à ce projet d'accueil de réfugiés.
Est-ce que ça a libéré, est-ce que cette affaire a libéré une parole d'extrême droite que vous n'entendiez pas jusqu'alors ? Est-ce que ça a libéré des choses ?
Je pense, sincèrement, depuis 3-4 ans, ouais, et surtout, on l'a senti en 2024, hein, après les européennes. Entendre des choses qu'on n'entendait pas avant, ouais. Parce qu'on ne peut pas tout mettre sur la colère, hein. Il y a aussi du racisme pur et bête. Mais en même temps, voilà, c'est pas massif, il n'y a pas d'engagement massif de militants sur le terrain. On ne les voit jamais dans les manifs de défense des services publics.
Du coup, ça vous surprend de voir une liste RN à Lannion, par exemple ? Vous qui êtes en plus natif du Trégor.
Oui, parce que c'est quand même là aussi, c'est une ville de gauche, Lannion. Enfin, Trégor est une région assez marquée sociologiquement.
Et militante.
Et militante, ouais. Avec des hauts et des bas, avec des problèmes de logement pour les jeunes, notamment sur le littoral. Donc il y a des problèmes, mais le Rassemblement national va tenter un coup. Hein, ça fait partie aussi de la. Après tout, ils sont représentatifs aussi d'une partie de la population. Donc voilà, je pense qu'on est plus dans un coup. Est-ce qu'il sera éphémère ou pas, on verra quoi. Parce que c'est pas facile de maintenir un engagement militant après dans la durée. On voit qu'il y a une tentative de rajeunir et de normaliser le discours. En présentant le Rassemblement National comme un parti de droite garant de l'ordre. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que dans les communes, quand il y a la droite classique qui recule ou qui ne trouve plus de candidats, on voit que le vote Rassemblement National, effectivement, progresse parce que ça répond aussi à une offre politique claire, quoi.
C'est jour de tempête. Nous sommes avec Alain Stéphan, qui est un ancien des PTT, un ancien de France Télécom, un ancien d'Orange, aujourd'hui à la retraite depuis 4 ans, et toujours représentant syndical solidaire. On s'est donné rendez-vous sur ce qu'on appelle ici le technopôle. Qu'est-ce que c'est en résumé ce technopôle ? Qu'est-ce qu'on y trouve ?
Le technopole de Lannion trouve son origine en fait dans le monde des télécoms, c'est-à-dire on parlait aussi de Silicon Valley des télécoms. C'est peut-être has-been aujourd'hui, mais ce qui est sorti du net, c'est par exemple le Minitel qui est sorti dans les années 80. C'était, je dirais, les prémices de l'Internet.
Est-ce que ça vit toujours aussi bien à Lannion? Est-ce qu'il y a toujours cette bonne santé économique qui a fait la richesse de la région?
Alors, est-ce que ça vit bien? Moi, je pense que le Trégor, il vit très très bien parce qu'en fait... Il y a encore de l'emploi, hein. Mais moi, quand je suis arrivé ici à Lannion, c'était quand même la région de France où il y avait le plus de polytechniciens au mètre carré. Donc, des gens qui vivent très bien, donc des gens qui aujourd'hui sont aussi en retraite.
Je vous pose la question parce que souvent, on fait le lien entre la présence de militants ou même d'élus du Rassemblement national avec un délitement économique. Ce n'est pas le cas ici. Alors, comment vous pouvez expliquer cette tentative d'implantation ici?
Alors c'est vrai que c'est ici ils ont un terrain plus favorable par rapport à la population vieillissante. Je pense que c'est un des facteurs depuis même les élections de 2012. Ils ont une progression qui est quand même très très significative, hein, parce que donc 2012 ils avaient un peu moins de 7%, ça doit être 6, à Lannion, hein, je parle de Lannion, 6,6%. Et pour arriver aujourd'hui, donc il y a eu les dernières élections législatives où ils sont arrivés donc
avec anticipé de juin juillet 2024.
22% pratiquement. Vous imaginez, donc ça fait multiplier presque par 3 leur score aux élections législatives. Donc
un territoire qui encore une fois vit très bien économiquement.
Qui est très bien, qui est une terre de gauche, qui a toujours, enfin, moi, que j'ai toujours connu à gauche. Donc de toute façon, ils se disent si on arrive à monter une liste, eh ben on est pratiquement certain d'avoir aussi des élus. Et qui dit élus, parce que les gens oublient bien souvent comme une chose au niveau des élections municipales, c'est qu'il y a les grands électeurs derrière. Parce que souvent on nous dit ah non, mais c'est des élections municipales, donc non, c'est pas politique. Non, mais c'est complètement politique parce qu'en fait, il ne faut surtout pas oublier que les grands électeurs, les conseillers municipaux, élisent nos sénateurs. C'est la deuxième chambre. C'est pas neutre tout ça. Et donc du coup, ça permettra certainement à l'extrême droite d'avoir aussi des représentants au Sénat.
Est-ce que vous envisagez de voir des élus du Rassemblement national dans le conseil municipal de Lannion?
C'est une évidence qu'il y aura des élus du Rassemblement national, c'est une évidence. Vu leurs résultats aux élections, je dirais, législatives, c'est une évidence. 22%. Même si vous êtes dans la minorité, vous allez avoir des élus. Et peut-être deux élus, de grands élus. Moi, à mon avis, à Lannion, il y en aura, mais il y en aura plus aussi au Sénat.
Lannion, laboratoire des municipales pour le RN. Un reportage de Vanessa Descoureaux pour Interception. À la production, Hélène Chevalier. La réalisation est signée Anaïs Reynard et Lucie Lemarchand. Martine Messonnier est chargée de programme. Merci à Romain Couturier et Marion Guilaine pour la documentation musicale. Et c'est Rémi Sistiaga qui a assuré le mixage. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Interception au bout du monde et au coin de la rue.